ce n'est pas un phénomène nouveau. Alors peut-être effectivement en Europe, mais des femmes combattantes et des femmes, par exemple, qui ont mené des opérations suicides, il y en a depuis déjà un certain nombre d'années. Et notamment si on reste dans la thématique des femmes djihadistes radicales, Al-Qaïda a déjà utilisé cette stratégie en Irak entre 2005 et 2009. Et notamment, il y a eu, alors là aussi c'était une première, une jeune Belge, Muriel Dogo, qui a mené une opération suicide en Irak en 2005.
Alors on a toujours eu dans l'idée que ces femmes qui partent faire le djihad sont des victimes en quelque sorte. Elles suivent leur époux, leur conjoint, elles ne sont cantonnées qu'à leur rôle de femme d'eux, leur rôle de mère. C'est un rôle majeur et important certes, mais pas de premier plan. Et là on voit que ça commence à changer. Est-ce qu'il s'agit d'un changement de stratégie au sein de l'État islamique ?
Oui, très certainement, mais comme ça l'a été aussi pour Al-Qaïda, c'est-à-dire qu'au départ ce sont des organisations qui refusent que les femmes soient engagées dans ce type de combat. Et donc les femmes ont un rôle bien spécifique, comme vous l'avez souligné, à savoir donner des enfants et élever les enfants dans l'amour du djihad. Et comme ça a été le cas pour Al-Qaïda, c'est-à-dire à partir du moment où l'organisation est en perte de vitesse sur le terrain, eh bien ce type d'organisation est tout à fait capable d'opter pour une autre stratégie de manière à compenser cette perte sur un terrain. Donc à partir de là, la femme est une espèce de suite logique.
Est-ce qu'on peut dire donc que la femme acquiert un rôle de plus en plus important au sein de l'État islamique ?
Alors un rôle plus important dans le sens où elles assurent aussi une plus grande couverture médiatique. Parce que forcément, et on le voit bien justement avec ce qui s'est passé la semaine dernière, quand il s'agit de femmes, ça va évidemment attirer beaucoup plus, ou en tout cas attiser beaucoup plus de curiosité de la part des médias, mais également des politiques. Donc c'est déjà une garantie d'une plus grande couverture médiatique. Et puis la femme, c'est aussi stratégique, parce que là aussi, encore une fois, on est dans la logique où on se méfie moins d'une femme. Donc c'est quand même une réorientation très stratégique. Ça peut être aussi une façon de stimuler l'engagement chez les hommes. À partir du moment où les femmes sont capables de le faire, là aussi, ça peut encourager certains hommes à s'engager sur cette voie de la violence, du martyr.
Est-ce qu'on peut dresser un profil type de ces femmes qui rejoignent les rangs de l'État islamique ?
C'est compliqué. On a autant de profils qu'il y a d'histoires. Après, effectivement, on a eu quand même un certain type de profil, à savoir des jeunes filles qui partaient donc en Syrie. Mais on a aussi une histoire personnelle, c'est-à-dire qu'on aura aussi bien des femmes qui sont prêtes à, en tout cas, faire usage de la violence pour s'affirmer elles-mêmes, pour montrer qu'elles sont tout aussi capables que les hommes d'aller dans ce type d'engagement. Pour d'autres, c'est un petit peu, on va dire, peut-être la dernière chance d'exister. Pour d'autres, on va vers une radicalisation, c'est-à-dire une affirmation aussi de soi à travers cette radicalisation. Donc on aura aussi bien des jeunes femmes, moins jeunes d'ailleurs, converties, mais converties à un islam, ou en tout cas une vision qu'elles se font d'un islam radical. Donc c'est assez difficile de dresser un profil type. Ça serait effectivement, là encore une fois, rassurant pour tout le monde. Mais on a des histoires aussi personnelles qui sont à prendre en compte. Et puis il faut faire la part des choses entre les femmes qui sont engagées dans cette organisation et qui sont d'origine ou irakienne ou syrienne, et les européennes qui sont peut-être là aussi motivées par d'autres raisons.
Est-ce que on peut parler aussi d'une espèce de rébellion, de révolte contre le modèle de la femme occidentale contre lequel elle pourrait un peu s'insurger
Bien sûr, mais encore une fois, il ne faut pas généraliser. Mais ça peut rentrer tout à fait en ligne de compte. En s'engageant dans ce type d'organisation, on est aussi dans ce qu'on appellerait du prêt à penser, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de place pour certaines dans la prise de décision, alors que pour d'autres, au contraire, c'est en s'affirmant de cette manière-là qu'elles ont le sentiment aussi d'exister. Donc là aussi, on ne peut pas donner vraiment une orientation unique. Mais ça en fait partie.
Alors, un certain nombre de femmes vont en Irak, en Syrie, et lorsqu'elles reviennent en Europe, elles ne sont pas forcément inquiétées par la justice. Est-ce qu'on peut dire que le phénomène a été sous-estimé ?
Ah oui, ça c'est très clairement, ça a été totalement sous-estimé. C'est-à-dire que là aussi, on n'a absolument pas pris en compte le fait que, d'abord, des femmes... On a eu dans l'histoire quand même par le passé, alors c'était certes pas dans des mouvements djihadistes radicaux, un engagement des femmes. Il y a quand même eu en Europe des femmes qui se sont engagées dans des mouvements. On a l'exemple de la bande Abadère. On a l'exemple donc des femmes engagées dans le combat, dans une lutte On a eu vraiment des exemples, mais c'est vrai qu'on est dans une vision de la femme dans la société qui peut paraître assez caricaturale, et on a très largement sous-estimé cette tendance, sachant encore une fois que ce n'est pas nouveau. C'est clair qu'on est dans des sociétés, que ce soit en Occident ou en Orient aussi, où on a toujours cette vision très caricaturale de la femme qui est toujours la victime et qui ne peut pas infliger la mort. Donc ça, oui, c'est à prendre en considération. Il va falloir revoir aussi un petit peu les dispositions et réajuster, là aussi, les analyses et la façon de faire par rapport, ou la façon d'appréhender en tout cas ce phénomène.